chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Dans quelques instants, vous allez retrouver Arnaud Boutéon pour son émission Athlète du Christ. Arnaud Boutéon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs de Radio Maria. Bonjour en ce lundi saint. Nous avons une semaine décisive. Vous savez, dans le sport, on parle souvent du crunch en rugby, ceux qui aiment France-Angleterre. On appelle ça le crunch, ça veut dire le moment décisif. Et finalement, cette semaine sainte, c'est un peu comme un crunch. Donc nous allons ce matin évoquer un peu le match de notre vie. Ça va être un sujet un peu généraliste, mais en plongeant au début de semaine dans ces quelques jours qui nous séparent de la libération, de cette joie libératrice de la résurrection, on sait que ça sera une période un peu ultime, décisive de combat, de souffrance, d'aridité, de tension avant la lumière. Et je crois que c'est très important de comprendre que derrière la croix, il y a la joie de la résurrection. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on va cheminer et puis rentrer un peu dans cette logique d'échange, de compétition ensemble sur le match de notre vie, concentré sur cette semaine sainte avec trois petites parties, trois tiers-temps comme dans une compétition sportive. Dans le match de notre vie, il est important de se connaître aujourd'hui où est-ce qu'on en est de notre identité presque un peu, je dirais même biologique, de notre place dans le monde. Le deuxième tiers-temps de ce match, ça va être la question de notre équipe. Notre équipe, c'est l'Église catholique. Qu'en est-il de notre relation avec notre équipe, avec nos couleurs? Et puis le troisième tiers-temps, c'est celui du match, donc de la compétition et de notre adversaire. Vous savez que dans les chroniques qu'on peut partager ensemble, j'ai toujours dit que l'adversaire, c'est pas l'ennemi. L'adversaire, c'est celui qui me révèle, c'est celui qui me fait grandir et qui me permet de montrer et de quel bois je me chauffe. Et j'aime beaucoup cette expression « de quel bois je me chauffe ». Parce que ce qui chauffe, ça réconforte, et puis ce qui chauffe, ça brûle, et ce qui chauffe, ça émet aussi de la lumière. Et de quel bois je me chauffe? Le bois, c'est toujours celui de la croix. Nous évoquions cette semaine sainte, mettons-nous à l'ombre de la croix, sachant que cette ombre bientôt va nous montrer cette lumière de la résurrection. Soyons des Simon de Cyrène, costauds, engagés. Simon de Cyrène, il avance, il porte le poids de la croix et il va vers avec le Christ, portant finalement avec le Christ les difficultés du monde. Et soyons des Simon de Cyrène. Voilà, notre identité aujourd'hui de champion du Christ, de l'athlète du Christ, ça passe, je pense, par cette acceptation de ce que nous sommes dans notre nature. On a peut-être eu trop l'occasion de mettre un peu trop l'accent sur la grâce. Et la grâce est très importante, mais la grâce vient transformer une nature. Et quand on parle souvent de sport, on parle de ce retour aux fondamentaux. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'importance de connaître aussi notre nature. Et ce qu'on disait dans la tradition de l'Église, c'est que nous avons des tempéraments, nous avons des inclinaisons naturelles qui nous viennent de la biologie. Et parfois, les chrétiens enjambent un peu cette partie de nos inclinations naturelles pour tout de suite parler de la grâce, de parler au risque de vivre tout ça nerveusement. Et je crois qu'il est important de savoir quels sont nos tempéraments. Et dans Aristote en parlait, dans les tempéraments, il y a ces inclinations naturelles. Il y en a qui sont plus vers l'action, d'autres qui vont être plus dans la réflexion, d'autres vers la pensée, avec cette volonté de chercher la paix. Et puis d'autres qui vont être beaucoup plus dans la relation. Il y a un très beau livre qui s'appelle d'Alexandre Havard qui nous parle de ce leadership vertueux qui permet de faire le focus sur nos tempéraments qui seront ensuite traversés par la vertu. Et là, la vertu, c'est la mise en place pratique d'actions qui vont transformer le réel. Si vous voulez, c'est entre le talent d'un joueur un peu en idée et puis son action de jeu où il va concrètement dans l'action éliminer un adversaire ou bien faire une très belle passe. Mais tout ça, ça sera toujours traversé par une forme d'amour. Faire découvrir une chanson que j'ai découverte récemment, une chanson tirée d'un répertoire russe qui s'appelle « Ceux qui s'aiment ». Alors on n'est pas dans l'annonce explicite du Christ, mais on est peut-être précisément dans ce tempérament, dans cette, ce qui traverse le cœur des hommes et qui est cet amour qui nous lie les uns aux autres. Et puis on verra en écoutant ces paroles, cette vertu qui fait que ceux qui s'aiment sont plus forts, ceux qui s'aiment sont plus courageux, ceux qui s'aiment sont moins seuls. Et je vous propose d'écouter ce très beau texte du répertoire russe qui a été réadapté par Gilbert Bécaud et chanté aussi par une jeune chanteuse contemporaine qui s'appelle Pomme. Et c'est très intéressant, c'est qu'on est vraiment à travers l'amour, et c'est ce qu'on a appelé, nous sommes appelés à vivre dans les matchs de nos vies. Il y a ce renversement qu'on retrouve dans le Magnificat. Le fol amour, celui qui est folie, nous permet d'être beaucoup plus sages. Le triste amour nous permet d'être plus joyeux, et le pauvre amour d'être plus riche. Et je crois que dans les compétitions de notre vie, on voit à quel point le Christ vient tout retourner. C'est un peu comme un contre-pied, c'est un peu comme un but dans les arrêts de jeu. Rien n'est planifié, rien n'est formalisé ou inscrit aujourd'hui comme on voudrait le faire sur des tableurs Excel ou bien sur des bases de données. Il y a toujours cet élan de vie, cette surprise de la vie, et c'est ce que l'amour nous permet de nous offrir. Et c'est c'est grâce à ce souffle d'amour que nous avançons, que, comme on le dit dans l'Apocalypse, que le Christ fait chaque jour toute chose nouvelle. Donc, dans ce premier tiers-temps, je reviens de notre compétition du match de notre vie. Dans ce premier tiers-temps, c'est vraiment cette connaissance de soi, pour non pas pour mieux écraser les autres, mais pour mieux les servir. Et je crois qu'il est très important de s'aimer soi-même, de rendre grâce pour les merveilles que le Seigneur a fait dans nos vies, dans notre être, dans notre histoire, malgré les difficultés, les vulnérabilités, les failles, les plaies, pour pouvoir mieux nous donner aux autres, mieux nous offrir aux autres, mieux les aimer de ce fol amour, de ce triste amour avec nos failles, pour une surabondance de sagesse, de joie et de richesse, selon une économie qui n'est pas l'économie du monde. On a pu voir dans les compétitions sportives, même ces dernières semaines. Je repense à la finale de la Coupe du Monde, des retournements de situation. On voit bien que rien n'est planifié. C'est ça qui est extraordinaire dans la théâtralité sportive. C'est qu'on voit j'allais dire, ce génie de la patte humaine qui fait que nous ne sommes pas dans le déroulement d'une pièce de théâtre, nous ne sommes pas dans le dévoilement d'un scénario construit par des personnes extrêmement douées. Dans l'affrontement sportif, mais notre vie est un affrontement au sens où il est un service pour révéler ce que nous sommes. Il y a en permanence cette flamme cette énergie humaine qui fait que rien, rien, rien n'est écrit par avance. Et puis la providence est là avec le concours de toute notre personne. Et dans le sport, ce qui nous rassemble, c'est notre personne dans l'intégrité de ce qu'elle est, corps, âme et esprit. Donc j'ai évoqué ce tempérament, ce caractère qui est travaillé et qui se frotte. Il y a une phrase du livre des Proverbes qui dit comme le fer s'aiguise avec le fer, l'homme s'aiguise face à son prochain. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le sport. Il y avait, je me souviens, je crois que c'était Socrates, un joueur brésilien, qui disait quand je jouais à côté de Zico, j'étais meilleur. Et se pose cette question, comment est-ce que moi-même, en étant plus proche du Christ, en étant meilleur moi-même, eh bien, il y a un effet contagion, il y a un effet qui fait qu'on rend les autres meilleurs. Et il y a dans notre entourage des lieux ressources, on en parle souvent, c'est des moments de retraite, c'est des lieux de retraite, ça peut être une maison de famille, ça peut être une résidence secondaire, ça peut être même son appartement où on y est bien, on reprend de l'énergie. Il y a des personnes ressources qui sont comme des coéquipiers, qui sont à nos côtés et qui vont faire que nous nous sentons meilleurs. Nous nous sentons meilleurs parce qu'elles nous rendent quelque part un peu irrésistibles. Alors, il ne s'agit pas d'une mécanique de séduction, mais une mécanique plutôt d'éducation, c'est-à-dire faire en sorte que nous sortons de notre coquille, nous allons au-delà, educere, conduire hors d'eux, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, essayons de voir autour de nous ces personnes qui sont des personnes ressources et qui vont nous permettre de mieux nous connaître pour mieux nous aimer. Et parfois, on a cette tentation d'un autodénigrement, ou bien on est englué dans des scrupules. Ça, c'est un truc de catho. Il y a beaucoup trop de scrupules. On pense qu'on s'identifie à son péché. Et on a un accompagnateur, c'est un peu comme un coach. On a des personnes autour de nous, comme ces coéquipiers bienveillants, qui vont nous dire, tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que ça, va de l'avant, donne-toi, tu es attendu pour transformer le monde, ton cœur est plus grand que tout cela, et le cœur des autres t'attend. Et ça nous permet, autre étape, de connaître aussi et d'affiner la question du service de notre vocation. Vocare, c'est cet appel, l'appel du Seigneur dans ma vie, et cet appel, il est fondamentalement un appel vers la communion vers la personne que je dois aimer, ça va être mon épouse, la communion vers mes enfants qui me sont confiés, et puis la communion de toutes ces personnes qui sont autour de moi, qui sont dans mon écosystème. Gustave Thibon avait une belle phrase, il disait parfois, aujourd'hui, alors il avait déjà cette prescience, cette vision de ce qu'allait être la société postmoderne. Il disait, on risque demain de s'éloigner de ce qui est proche. Il disait, à force de vouloir être proche de ce qui est loin, et on pense aux réseaux sociaux, être proche de ce qui est loin, on va finir par devenir loin de ce qui est proche. Et le christianisme, je le dis d'autant plus que nous sommes dans une émission sur le sport et la religion, c'est la religion de l'incarnation. Nous sommes dans la religion du magistère du geste. Et dans le sacrement de la confession, le prêtre doit être présent physiquement pour pouvoir mettre cette main sur l'épaule qui console. On pense au magnifique tableau de Rembrandt avec le pénitent et le fils prodigue. Avoir cette main qui console, cette main qui bénit et cette main qui envoie. Nous sommes la religion de l'incarnation. Et donc, il est important de se connaître pour mieux s'aimer. Donc, quelle est ma vocation et quelle est cette mission dans le monde qui m'échoit? On a parfois du mal à comprendre ce que c'est notre mission. Et notre mission, c'est celle qui rejoint fondamentalement mon histoire sainte. Mon histoire sainte avec mes difficultés, mes vulnérabilités, avec ces cicatrices que je connais, sur lesquelles je peux travailler régulièrement, mais aussi avec mes talents. Quels sont mes talents? Et vous savez, dans le sport, le talent, c'est mon point fort, c'est mon identité. Le joueur de tennis qui a un revers hors norme, il va extrêmement travailler son revers en mettant beaucoup plus de ressources et d'énergie pour travailler son revers que pour compenser peut-être ce coup droit qui sera un tout petit peu défaillant. Et aujourd'hui, posons-nous cette question, nous, les athlètes du Christ, dans le match de notre vie, quelle est cette qualité qui me caractérise? Posons cette question peut-être auprès de gens qui sont dans notre entourage. Parfois, c'est des exercices dans les séminaires. Vous savez, on essaye d'identifier trois qualités. On a des tours de table et puis on va partager trois qualités qui vont caractériser toutes les personnes de ce tour de table. Et souvent, on sort de l'exercice revigoré, regonflé, parce qu'il arrive qu'on soit tellement proche de ces qualités qu'on ne s'en rende pas compte. Et on a besoin de regards extérieurs bienveillants pour nous dire, waouh, Arnaud, pour moi, tu m'inspires ça, 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 telle qualité. Et quand on nous transmet ces qualités, eh bien, voilà, acceptons-les avec énormément de gratitude. Et la gratitude, c'est aussi c'est une disposition de cœur qui dilate. Et puis, ça nous permettra de faire rayonner ces qualités avec encore plus de force, de joie et d'enthousiasme autour de nous. Voilà, donc tempérament, les tempéraments, on en avait déjà parlé sur cette antenne, c'est vraiment ces réalités biologiques, ces tensions biologiques qui nous animent. Il y a des personnes voilà, qui vont devoir en permanence chercher la relation avec les autres pour ils seront un peu dans leur zone de confort. D'autres qui vont ont besoin de réaliser des choses en permanence. D'autres personnes qui ont besoin de plus de recul, plus de sagesse. Et la période de confinement est intéressante parce qu'elle a permis de révéler finalement les tempéraments les uns des autres. Quand il a fallu se cloîtrer, et bien certains se sont cloîtrés de bonne grâce en disant « Ah, enfin, je pourrais rentrer dans ma caverne, je pourrais faire des études, je pourrais réfléchir, je pourrais me vouer à ma passion artistique. » D'autres ont vécu cette période de confinement comme un corset qui leur était insupportable d'accepter. Et donc, ils sont partis sous les radars de la clandestinité pour visiter les uns et les autres. Voilà. Acceptons ces tempéraments, travaillons nos caractères à travers la vertu, et on a ces vertus qui nous sont données par la sagesse chrétienne, cette vertu de sagesse, de prudence, de force. Vous savez, la force, c'est cet équilibre entre la témérité qui nous amènera à faire des choses insensées, et puis une forme de timidité. Donc trouvons ce juste ce juste milieu. Et souvent, dans la douceur, il y a une forme de force. Dans les béatitudes, on dit heureux les doux, pas heureux les mous. Et les personnes douces, avec une forme de densité humaine, vont permettre de faire avec de la détermination, de poser avec de la détermination des actes qui transforment le monde. La vertu, c'est pas quelque chose de vaporeux, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le réel. C'est un passage à l'acte, le passage à l'acte d'une intention très belle qui fait que on la met en pratique. Poser un acte vertueux, c'est typiquement transformer de la rancœur en un acte de pardon qui fait qu'on va appeler la personne et on va lui exprimer notre désir de se réconcilier. Et puis on peut lui offrir un cadeau, on peut lui manifester ce geste. Et puis voilà, cet appel du Seigneur dans notre vie à travers la vocation et puis notre mission. Quelle est ma mission dans ce monde? Et cette mission nous rejoint dans notre personne, avec ce tempérament, ce caractère, avec notre expertise professionnelle, scolaire, tout ce qu'on a pu apprendre et accumuler comme bagage dans notre vie. Pensons à un sportif qui a travaillé ses coups droits, travaillé son positionnement sur le terrain, etc. Donc, expérience un peu universitaire, expérience de vie, expérience professionnelle, et puis les moments, revisiter les moments où nous avons de la joie. Et je crois que le Seigneur ne nous amène pas aujourd'hui dans notre mission dans le monde à jouer à contre-emploi, comme on dit dans le terrain. On ne va pas demander à Mbappé d'être un défenseur ou à Antoine Dupont d'être un pilier. Chacun est à sa place sur le terrain avec ses qualités, avec son tempérament, son caractère et avec cette place qu'il fait qu'il sera joyeux. Il y aura de la joie qui va monter dans son cœur parce qu'il va se sentir fécond. Non pas efficace, mais fécond. La différence de l'efficacité et de la fécondité, c'est que l'efficacité va obéir quelque part à quelque chose de huilé, de préparé. La fécondité, c'est sur une autre économie, avec de la surprise. Et on sera fécond quand on jouera détaché, quand on ne sera pas dans une forme d'autocontrôle mécanique, j'allais dire scientifique, de toutes les actions que nous poserons. Mais il y a un moment donné, on dira, voilà, je m'offre. De façon eucharistique à ce monde, avec mon histoire, je pose des actes concrets et puis je ne les pose pas de façon instrumentalisée ou en identifiant tout de suite la fin, mais je les pose de façon gratuite, désintéressée, et puis je sais qu'il y aura une fécondité qui va obéir à une autre économie, l'économie de la grâce. Peut-être que parfois, on peut semer, on ne verra pas on ne sera pas là pour la récolte, mais on sème le bien et puis on va jouer de façon gratuite et libérée. Il est important aussi dans tout ce travail sur un peu notre identité, notre être, de savoir que de ne pas trop parler, je crois. Paul VI évoquait le besoin pour notre période post-chrétienne, notre besoin d'avoir des témoins davantage que des maîtres. Ou alors, s'il faut des maîtres, il faut que ces maîtres soient des témoins. Et je crois que le témoin, c'est celui qui transforme le monde par ce qu'il est, par la cohérence entre sa pensée et ses actes. Mais c'est surtout par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, cette pastorale du geste, cette cohérence de vie. Et c'est ce qui transforme les cœurs davantage que par des grands discours, des bavardages ou des grands sermons. C'est vraiment dans ce que l'on est, dans ce qui va transparaître de nous, que les choses vont bouger. L'entraîneur, quand il va mettre à sa bonne place sur un programme de jeu, sur une feuille de match, un joueur, il va pas regarder les intentions, il va faire ce choix en fonction de ce que le joueur aura prouvé lors de l'entraînement ou lors du match. Quand la France a battu là récemment lors du tournoi Destination l'Angleterre, c'est très intéressant, c'est que il y avait une rumeur très positive sur ce qu'allait faire l'équipe de France, parce que les joueurs à l'entraînement, beaucoup de personnes me l'avaient dit, ils avaient mis en place des schémas de jeu qui étaient extrêmement bien huilés. Il y avait des joueurs qui revenaient de blessures, des joueurs. Je pense à Aldrit, un joueur qui voulait jouer contre l'Écosse parce que sa maman est écossaise, qui n'avait pas pu jouer, il avait été sacrifié parce qu'il y avait eu un carton rouge à un autre joueur. Donc on savait que le match d'après, il allait revenir avec une motivation décuplée. Donc il y a comme ça plein d'éléments qui fait qu'on savait un peu que le match allait être bien, allait être bon. C'est comme avant parfois des retraites, quand il y a des micro-combats, c'est bon signe. Ça veut dire que la grâce va venir et que de grandes et belles choses vont arriver. Toujours sur cette première partie un peu de notre identité, de notre être comme athlète, je vous partageais trois petites un peu punchlines que j'ai pu voir, en tout cas de mon expérience à travers les chevaliers de Colomb ou à travers mon accompagnement des hommes. Donc, ça sera un peu plus genré, mais je parle de ce que je connais le mieux, qui est la question de la masculinité. Je crois qu'aujourd'hui, l'importance de comprendre que l'homme, c'est vraiment, enfin, son appel, c'est de protéger, et puis d'explorer, de conquérir. Comme ma mère est décédée, un ami prêtre m'avait envoyé un SMS en me disant le départ d'une maman, c'est les fondations de ta maison qui s'évanouissent. Le départ d'un papa, c'est les murs porteurs et la toiture, quelque part. Et je crois que voilà, le rôle du père, c'est de donner confiance dans ce qui nous sépare du monde. Peut-être que la maman sera plus matricielle, enveloppante, sécurisante. Le père, c'est celui qui permettra ce stock de confiance pour permettre de rentrer en relation avec ce monde extérieur qui est une vraie conquête et un vrai enjeu de bien se positionner dans le monde. Le père, c'est celui qui donne le cadre, qui va élire, qui va bénir, qui va envoyer. Je pensais à ça aussi, le père, c'est celui qui tient sa maternité de sa mère, de son épouse et réciproquement. On voit à quel point l'homme et la femme sont complémentaires et comme disait Kersauzon, ils sont supplémentaires. L'homme ne sera dans la paternité ne sera pleinement homme que s'il aura été transformé par le mystère de la femme et réciproquement, la femme pourrait être pleinement femme si elle aurait été sécurisée quelque part et envoyée par le charisme de l'homme. Et puis, une petite expression qui va vous faire sourire sur la fraternité, parce qu'on parle souvent avec des grands mots de la fraternité républicaine, mais il y a deux choses, à mon avis, intéressantes à comprendre en tant que, j'allais dire, compétiteur de l'évangile dans ce monde. C'est qu'avec nos coéquipiers, on est frères parce que il y a cette filiation divine, nous sommes les fils d'un même père, mais la fraternité doit nous amener aussi à partager sur nos vulnérabilités, nos faiblesses, c'est-à-dire que on va se corriger mutuellement sur un terrain de jeu. Quand il y en aura un qui sera trop proche d'un joueur, on va lui dire attention, tu marches dans les pattes, reprends ton territoire. Enfin, c'est très important de pouvoir nous parler comme frères. Et de pouvoir un peu nous réajuster les uns les autres. Je crois que c'est le père, le curé de Saint-Laurent qui un jour avait écrit dans Paris Notre-Dame une phrase qui m'avait beaucoup plu et que je recite. Il avait dit, le frère, c'est celui qui voit le morceau de salade coincé dans la bouche de son prochain. Et quand on voit quelqu'un qui a ce morceau de salade, d'abord ça nous fait rire parce qu'il est ridicule. Et puis on est spontanément amené à lui dire attention, voilà, prends un verre d'eau parce que tu as ce morceau de salade. Ça veut dire qu'on lui veut du bien, on le corrige pour lui permettre d'être entre guillemets plus présentable. Et je trouve que c'est assez intéressant. Repensons à ce petit morceau de salade. Ensuite, notre équipier, j'ai commencé déjà à en parler, j'attaque ce deuxième tiers-temps, c'est le fait d'être catholique. Et être catholique, c'est pas parler catholique, c'est pas s'habiller catholique, c'est là encore être. Et fondamentalement, je pense que notre destinée de catholique, c'est d'être martyr. Alors le martyr, c'est pas celui qui est découpé en tranches, celui qui est criblé de flèches, celui dont on coupe la tête. Le martyr, c'est avant tout le témoin. C'est de rendre témoignage de ce qu'on est avec nos fragilités et de rendre témoignage du Christ qui nous habite. Le joueur de football Kaka disait, il avait un petit bracelet dans lequel était inscrit tout ce que ferait Jésus à ma place. Et à chaque fois que nous sommes face à des situations parfois délicates à gérer, posons-nous la question, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Est-ce qu'il pleurnicherait? Est-ce qu'il agresserait sans cause? Ou est-ce qu'il rejoindrait l'autre dans cette démarche d'inculturation missionnaire pour ensuite poser des actes de communion, un peu de vérité. Il y a dans le catholicisme, bien sûr, cette tension pour l'universel qui fait que ce message de sagesse catholique que nous recevons, nous ne le possédons pas, nous le recevons, nous sommes un peu le réceptacle de cette sagesse, de ce trésor de l'Église, eh bien l'universalité fait que nous devons le transmettre autour de nous. non pas en bavardage, mais en témoignage. Récemment, je rencontrais des jeunes qui se posaient la question dans leur examen de conscience, en fin de journée, est-ce que j'ai eu l'occasion dans ma journée de poser des actes un peu concrets de témoignage, qui peuvent être très simples, qui peuvent être formulés avec une certaine autodérision, avec un certain recul, mais est-ce que j'ai posé un peu ces actes qui fait que les personnes autour de nous se sont dit, tiens, il est un peu différent. Il est un peu différent. Et je pense que l'évangélisation se fait par l'attraction, ne se fait pas par une forme de coercition, ne se fait pas par de la propagande. On parle beaucoup de plans de com, l'Église ne sait pas communiquer. Attention à une forme de propagande. Ça se fait par petites touches, par gentillesse, disait Mère Teresa, et par attractivité, disait Benoît XVI. Aujourd'hui, je crois qu'il y a deux terrains un peu intéressants sur lesquels on doit travailler. Benoît XVI, dans une belle conférence qu'il avait faite sur les difficultés de transmettre la foi dans l'Europe d'aujourd'hui, avait évoqué deux choses. Il avait évoqué la disparition de la filiation divine et évoquons autour de nous le fait qu'on est frères parce que fils d'un même père. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes le temple de l'Esprit, et donc la question de la promotion et de la défense de la dignité de la personne humaine doit nous habiter. Partout, à tribord comme à bâbord, à gauche comme à droite. L'embryon doit être protégé, promu comme le migrant ou la personne au chômage est délaissée. Il doit y avoir une forme vraiment d'appétence et pour la personne humaine. J'aime pas toujours défendre, mais je pense promouvoir pour mieux défendre la personne humaine. Qui est le Christ, hein, qui nous révèle le visage du Christ, du serviteur souffrant, et on peut le vivre avec d'autant plus de force pendant cette semaine sainte. Donc, cette question de la filiation divine, de la promotion, de l'émerveillement devant toute création, je pense aussi aux créatures que sont les animaux, à cette vie qui nous est donnée par le Créateur, et puis ce salut qui passe par la croix. Et aujourd'hui, notre société voudrait évacuer la souffrance. On est ce matin, la veille d'une rencontre entre le président de la République et puis cette convention autour des questions de fin de vie. On parle du suicide assisté, on va parler des soins palliatifs, on va parler de l'euthanasie. On voit que le sujet de la souffrance en fin de vie suscite beaucoup d'incompréhension, de douleur, de ressentiment. Et on est dans une société qui veut évacuer la souffrance. On est dans cette société qui falsifie un peu le soin pour promouvoir une idéologie du care. Solofieff aurait parlé de falsification du bien pour mieux anesthésier, pour mieux contrôler et pour mieux quelque part externaliser tout ce qui est difficile. Or, je pense que c'est pas la vie qui est difficile, c'est le difficile qui est la vie. Et seul, effectivement, c'est un véritable scandale. Et c'est là que la solidarité, on parle de moins en moins de solidarité d'ailleurs, la solidarité et la fraternité des chrétiens qui fait que on va porter ces fardeaux les uns avec les autres. On va s'entraider, on va alléger la charge de l'un qui demain pourra alléger la charge de l'autre. Et je crois que nous sommes la religion de l'incarnation, nous sommes la religion de la communion. Et la communion, c'est ce partage des vulnérabilités et de la difficulté, alors qu'on est dans une société, et nous pouvons vraiment avoir ce regard lucide, hein, sur cette société, qui est une société de l'atomisation, de la segmentation, de la fragmentation, qui est celle d'un marché unique où chaque personne sera un petit consommateur. Et on n'est pas là pour être chacun individuellement des petits consommateurs à qui on vendra de la soupe, une nourriture avariée, mais on est là pour faire corps. On a oublié d'ailleurs l'importance des corps intermédiaires. On veut un peu fracturer tout ce qui fait corps, la famille, les corps intermédiaires, les petites communautés. On veut, parce qu'il y a eu des abus dans ces communautés, on veut montrer que finalement toute communauté serait une structure de péché. Moi, je crois que chaque lien a besoin d'être purifié, mais on ne peut pas être seul. On a besoin de cette solidarité, de cet esprit d'équipe, et précisément pour diffuser de la cohésion et pour nous rendre plus forts et pour nous émerveiller de ce que fait l'un et l'autre. Voilà. Et puis je crois aussi que dans notre identité de catholique dans ce monde, eh bien, il faut accepter ce combat qu'est la foi. La foi, que, pour paraphraser Ernest Renan, c'est comme un plébiscite de tous les jours. On a une foi chevillée au corps, mais on est souvent traversé par le doute. Et je vais vous citer Benoît XVI, qui un jour, rencontrant des cardinaux, avait dit la chose suivante. Il avait évoqué ce combat entre deux amours. Alors, il citait saint Augustin. Il disait, saint Augustin a dit que l'histoire est un combat entre deux amours. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi dans le martyre, donc dans le témoignage. Et je continue à citer Ratzinger, nous sommes pris dans ce combat et dans ce combat, il est très important d'avoir des amis. Et il dit à ses amis cardinaux qui l'entourent, merci à vous tous pour la communion des joies et des douleurs. Allons de l'avant, le Seigneur l'a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Merci à vous tous, le Seigneur vous bénisse tous. Et Benoît XVI termine sa petite allocution en disant « Levons nos verres ». Et c'est très intéressant parce qu'on dirait comme un peu un discours d'avant-match, un discours d'avant-match de ce pape qui dit à ses frères « Nous sommes traversés par des difficultés, nous avons besoin les uns des autres et en plus, nous comme coéquipiers, nous ne sommes pas seuls parce que le Seigneur est avec nous, c'est notre capitaine ». Il nous dit « Courage, j'ai vaincu le monde, nous le savons, dans l'équipe du Seigneur, donc dans l'équipe gagnante, malgré les affres de la vie, malgré les combats, malgré les difficultés. » Et il termine avec cette parole de bénédiction et de dilatation « Levons nos verres, levons nos verres ». Alors, deuxième petite respiration musicale, nous sommes dans la Semaine Sainte, nous sommes dans une période un peu de combat, on a vu ce combat entre deux amours, une forme de un peu de prédation parce qu'on a peur du don de soi, donc on veut un peu se replier sur nous-mêmes. Et puis l'autre terme du combat, bah, c'est l'amour de Dieu, c'est l'accueil de l'amour de Dieu qui est un torrent de vie, qui est la résurrection. Et donc je vous propose d'écouter un petit passage qui est le passage qui s'appelle Résurrection, qui est tiré du film de Mel Gibson, que je vous invite à regarder, en particulier le Vendredi Saint. C'est un film dur, âpre, et c'est un passage musical qui nous fait entrevoir la résurrection. On est vraiment, à la fin du film, on est au tombeau, et la lumière arrive, et on est face à ce mystère de la résurrection. Donc écoutons Résurrection, c'est un moteur pour cette semaine sainte dans laquelle nous sommes engagés.
Nous sommes avec Arnaud Boutéron. Dans cette émission Athlète du Christ, aujourd'hui nous parlons du match de notre vie dans cette semaine sainte.
Voilà, chers amis de Radio Maria, ce morceau est intéressant parce qu'on sent comme une jubilation et une saturation qui monte de plus en plus vers une explosion et vers quelque chose d'indicible et de plein. Et c'est ce qu'on va vivre pendant cette semaine sainte, cette montée en puissance et en même temps une descente un peu dans notre misère, dans notre intériorité, dans notre faiblesse, pour nous laisser remplir de la grâce et de la plénitude du Seigneur. Voilà, c'est comme, vous savez, un champion, quand on interroge aujourd'hui les jeunes sur les grands moments de joie et de jubilation de leur vie, ils nous disent. Bah, c'était, j'ai passé la ligne du marathon, j'ai eu une bonne note, j'ai retrouvé mon père après une séparation. Et on voit à quel point tous ces moments de grande jubilation, de grande joie, de plénitude viennent après des moments de souffrance, des moments de manque, des moments d'ascèse. Et ça rejoint ce qu'on disait sur cette volonté aussi aujourd'hui d'évacuer la souffrance. La souffrance est prémisse de joie selon une économie que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, dans ce match de notre vie, on a évoqué la première partie sur notre être, sur la connaissance de nous-mêmes, la deuxième sur notre identité de catholique, de témoin dans ce monde, et puis cette troisième partie, ce troisième tiers-temps qui va nous amener dans la glaise du monde, ça va être cette question de l'adversité, finalement, de ce terrain de jeu dans lequel on est amené à évoluer. Et je crois que l'adversité, c'est vraiment ce qui nous fait grandir. Et aujourd'hui, il nous faut décrypter le monde avec énormément de lucidité. Mais il y a quelque chose que nous devons rejeter, mais violemment. Je crois que c'est tout ce ressentiment, la pleurnicherie, la victimisation qui peuvent parfois assaillir le cœur des catholiques. Fondamentalement, la victimisation n'est pas chrétienne. Est-ce que vous avez envie de suivre au bout du monde un capitaine d'équipe qui vous dirait, dans le cadre d'une ascension, le temps est mauvais, je ne sais pas si on y arrivera, il y aura des avalanches. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent, pour des questions de tempérament, d'absence de vertu, de caractère, qui peuvent avoir un discours extrêmement anxiogène. Et je pense qu'il faut prier pour eux, mais leur dire, attention, nous sommes animés d'une espérance chrétienne. C'est pour ça que on n'est pas là pour être des bisounours, mais on est là pour vraiment poser un regard lucide, rationnel, sur le fonctionnement du monde, et puis en se disant, il y a une espérance chrétienne, où sont les germes d'espérance, où sont ces belles actions qui fait qu'aujourd'hui, des personnes se rapprochent du Christ. On dit dans l'Évangile, hein, vin nouveau dans des outres neuves, ne mettons pas notre énergie dans des vieilles outres. Dans le fait de poser ce diagnostic, ne soyons pas seuls, échangeons autour de nous, et puis ayons cet esprit de gratitude et d'action de grâce pour toutes les belles choses qui aujourd'hui sont à l'œuvre dans le monde. Et Peggy avait une très belle phrase qui est très sportive. Il disait, dans le monde d'aujourd'hui, il faut intercaler le christianisme. Intercaler, vous savez, un peu comme une prise d'intervalle d'un joueur de rugby qui va casser la ligne adverse pour aller faire basculer le jeu dans le camp de l'adversaire. Intercaler le christianisme, je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux classiques. Le premier fondamental, c'est l'inculturation missionnaire, c'est-à-dire ce monde, pour le transformer de l'intérieur, il faut le comprendre pour mieux l'aimer. Donc, poser ce regard lucide sur les difficultés, parce qu'aujourd'hui, on voit à quel point il y a des pans entiers du christianisme et de notre société qui changent. On voit que la présence chrétienne s'étiole, disparaît. Un ami me disait récemment, il y a une église qui va, une église qui vient, et cette église qui va, eh bien, on voit qu'avant, les catholiques étaient présents dans un premier temps dans le sanitaire, ils n'y sont quasiment plus. Dans le médico-social, on n'y est quasiment plus, ou difficilement. Ensuite, dans l'éducation, on voit à quel point, même dans l'enseignement catholique, il est très difficile, pour des questions de main-d'œuvre, pour des questions de relais, de conviction, il est très difficile d'avoir de façon un enseignement intégralement catholique. Donc, on voit un effacement qui peut être difficile, mais à côté de ça, il y a des minorités créatives, il y a plein de projets qui nous mettent dans l'espérance. Et donc, ces fondamentaux, pour moi, ce sont les œuvres des miséricordes, il n'y a rien de nouveau. À travers un témoignage ardent, repensons à Mère Teresa qui disait « Je soigne au nom du Christ ». Elle disait aux musulmans « Soyez de bons musulmans, mais moi ce que je fais, et peu de personnes arrivent à le faire, je le fais au nom du Christ mort et ressuscité pour nous ». Il y a évidemment la famille comme un terrain missionnaire prioritaire, fondamental. Est-ce que la famille est un lieu de prédation, de méchanceté, de division, ou un lieu de bénédiction avec des stocks de confiance et avec de l'amour? Les parents sont en première ligne sur la transmission de la foi, les grands-parents aussi. Et puis, il y a évidemment le martyr. Le martyr, la contradiction, et puis on voit la fécondité des martyrs, et c'est le génie un peu du christianisme qui fait que quand un père Hamel est martyr de sang, eh bien, il y a des semences de vie. Donc, là, au moment où ils veulent un peu exterminer les chrétiens, les catholiques, eh bien, finalement, ils plantent une semence de vie. Donc, comment faire? Et ça fait 2000 ans que ça dure, comment faire? Et c'est pour ça que nous sommes le cœur de rempli, rempli vraiment, rempli d'espérance. Et je voudrais vraiment terminer par ça aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais à Lourdes. On voit que l'institution est un peu fragilisée, c'est compliqué. Il y a une évolution dans la gouvernance qui va dans le bon sens. La question sur les abus sexuels, c'est un chemin de liberté et de vérité. Et puis, au moment où il y avait un peu cette institution qui se remettait en cause, il y a eu un plan incroyable média où il y avait un juif qui s'appelle Gad Elmaleh qui dit aux catholiques, soyez pleinement catholiques, vous êtes à côté d'un trésor, c'est extraordinaire, j'ai découvert la Vierge Marie, c'est stupéfiant, mère de douceur, etc. Et puis il y a un catholique converti de l'islam qui s'appelle Mehdi Djadi. Mehdi, il est nominé au Molière. Il avait commencé il y a 4 ans son spectacle dans la crypte d'une paroisse du 20e arrondissement pour lever un peu d'argent pour que les enfants de cœur de la paroisse puissent aller au Puy du Fou. Et 4 ans après, le spectacle étoffé, retravaillé, eh bien, il sera à l'Olympia 4 ans après, jour pour jour, après la crypte. Et il parle de sa découverte de l'Église, de son amour de la liturgie, de la présence de prêtres à ses côtés et de sa volonté de servir le Christ. Donc nous sommes, le match de notre vie est un match qui nous oblige à nous entraîner jour après jour, à donner le meilleur de nous-mêmes, mais sachons jouer toujours libérés parce qu'on ne connaît pas le scénario. Le scénario, c'est la question de la sainteté, mais le Seigneur a davantage d'imagination que nous. Travaillons sur ces grandes amitiés, travaillons sur ces grandes amitiés, on n'est pas seul. Et puis repensons à cette belle phrase de Benoît XVI, nous sommes dans l'équipe du Seigneur, donc dans l'équipe gagnante. Et je crois que notre vie, en gros, soit ça sera une vie un peu d'idolâtrie, avec quelque chose de très très étriqué qui ne nourrit pas le cœur de l'homme, soit ça sera une vie pleinement eucharistique. Et une vie eucharistique, c'est une vie donnée. Il faut aimer de façon inconditionnelle. Au début, on a eu cette chanson sur les gens qui s'aiment. On voit à quel point l'amour renverse l'ordre établi. Il faut aimer de façon inconditionnelle et puis vivre de ce don désintéressé. C'est un peu la même mécanique. C'est vraiment cette mécanique un peu du lâcher prise et de l'attention à l'autre, toujours dans cette quête de communion et pas dans cette quête un peu de contrôle. Et je crois que notre vie, le match de notre vie, il sera eucharistique dans le don de nous-mêmes, ou bien il sera perdu, il sera vain. Ça sera un bon divertissement, mais ça ne sera pas fécond. Donc, chers amis, en cette semaine sainte, en ce lundi saint, on avance dans le phare de la résurrection. On avance à la bougie, pas à pas. Et puis voilà, on est tendu, on est attiré par ce phare de la résurrection, par cette lumière qui éclaire nos vies, qui éclaire nos cœurs. Soyons des théophores, des porteurs de lumière, et notre vie eucharistique, on sait qu'elle sera d'une grande fécondité. Donc demeurons dans l'espérance, soyons bons. Saint Augustin disait, les temps sont mauvais, soyons bons et les temps seront bons, car nous sommes le temps. Nous sommes le temps, chers amis, rendons grâce, bonne semaine sainte à tous, et puis au mois prochain.
Merci beaucoup Arnaud pour cette très belle émission. Au mois prochain. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous venons d'entendre Arnaud Boutéon pour son émission Athlète du Christ. Aujourd'hui, nous parlions du match de notre vie. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.